conseil de l'Église, on a entamé une formation, il y a à peu près, depuis la rentrée de septembre, une formation qui nous aide à, qui est organisée par l'Église de Bethel, formation vidéo, etc., pour nous aider à asseoir notre vision et avoir une vision stratégique sur les années qui viennent et remplir un mandat véritablement qu'on appelle apostolique. Et nous avons pris des jours déjà ensemble. C'était un peu difficile de s'arracher des jours, mais on l'a fait, on n'a pas terminé. Et on a revisité, si vous voulez, l'histoire de l'Église, les prophéties de l'Église, ce qu'on vit, notre expérience, nos points forts aussi, les choses qui manquent, etc. Et nous sommes arrivés à une première conclusion qui est un énoncé de notre mission, si vous voulez, la phrase qui nous fédère et qui donne le pourquoi on existe. Et la voici, cette nouvelle phrase, on l'a partagée au niveau des équipiers le dimanche, il y a en 15 jours. Écoutez bien, voilà ce qui nous caractérise. Hein. Josué est donc une famille qui célèbre la présence de Dieu, manifeste son amour et incarne son royaume. Donc voilà, ça pour arriver là, on a mis du temps les amis, hein. On a mis du temps. C'était des post-it, c'était des partages, c'était de la prière, c'était beaucoup de choses. Donc je répète, une famille qui célèbre la présence de Dieu, manifeste son amour et incarne son royaume. Et donc ça, c'est qui nous sommes. Chaque église a une couleur, un mandat, une vision. Et voilà ce qui nous caractérise. Et bien sûr, le premier mot, une famille qui célèbre, on aime la louange, on aime l'adoration. Par-dessus tout, on aime la présence de Dieu. Et c'est que cette présence qui nous transforme, d'où les maisons de prière, etc. Manifeste son amour. Donc ça, c'est ce que nous sommes et ce que nous sommes aussi en devenir. On n'a pas la prétention d'être arrivé à ça. Il y a un chemin encore. Hein. Rien que pour être une famille déjà, il y a un chemin. Il y a un chemin pour incarner son royaume. On est dans des balbutiements, dans des débuts. Mais quand même, c'est à la fois ce que nous sommes et c'est comme une graine que Dieu a plantée et qui va devenir un arbre. Et donc nous réfléchissons ensemble, nous sommes en pleine action pour réfléchir sur la structure d'une église. Une église, c'est comme une outre. Et c'est une outre, hein, il y a une structure. Et pour accueillir quoi? Pour accueillir la vie de Dieu. Et on va prendre quelques textes tout à l'heure, mais pour accueillir la vie de Dieu, qui est comme un vin, cette vie. Et cette outre, elle est pour héberger cette vie. Hein. Si vous prenez de l'eau et il n'y a pas de contenant, l'eau se répand. Il n'y a aucun moyen de la garder. Il faut une gourde, il faut une outre. Et cette outre, c'est pour héberger la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a une structure d'église. C'est pour ça qu'il y a des ministères. C'est pour ça que nous sommes tous ici des pierres vivantes et faisons un édifice qui est appelé à être un édifice pour l'esprit, Éphésiens 2, hein, pour l'habitation de l'esprit. Donc le but de l'outre, c'est quoi? C'est d'héberger la vie, de communiquer la vie. Sans l'outre, le vin ne peut se développer adéquatement, pour atteindre son potentiel. L'outre, elle est pour le vin, mais sans l'outre, il n'y a pas de vin. Il n'y aurait pas de vin possible. Et quand un vin vieillit pour devenir meilleur, il ne demeure pas statique, vous savez. Et c'est la phrase de Jésus dans Jean 10:10, « Je vous donne la vie en abondance, cette vie a besoin d'être reçue dans un réceptacle. » On voit dans l'Ancien Testament, Dieu qui aime habiter dans ce tabernacle, mais il ne va pas rester là-dedans, on est bien d'accord. Ensuite, il veut se déverser dans son peuple, mais le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est de se déverser dans le monde entier. Mais pour ça, il y a vraiment un besoin de cette outre. Alors, la tendance, c'est qu'on a tous ici, hein, tous ensemble, on a une tendance. C'est une tendance normale, mais c'est une tendance à maintenir ce qu'on a reçu. Voyez, on essaie de maintenir. Alors la semence, elle est précieuse, elle a été mise dans la terre de l'Église. C'est une semence vivante pour des récoltes plus grandes, plus vastes. Mais le vin nouveau qui est versé en nous, eh bien, il provoque une expansion, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que l'outre qui était valable il y a quelques années, eh bien, même si c'était bon, elle a besoin d'être parfois changée, en tout cas parfois enlever la rigidité. Et de nouveau tremper dans cette huile pour qu'elle ait la forme des nouveaux contenus que Dieu veut nous donner et libérer au milieu de nous. La plupart, souvent, on a cette vision un peu parfois pastorale et c'est bien de maintenir ce qu'on a reçu. Et on remarque que le Seigneur veut élargir cette vision et nous faire passer à une vision beaucoup plus apostolique, ce qu'on appelle. Alors c'est un gros mot, et c'est un peu, j'aimerais un peu parler de ce mot pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Le corps de Christ tout entier est appelé aujourd'hui, franchement, hein, à reprendre une dimension apostolique. Ça veut dire quoi cette dimension apostolique ? Nous tous, en tant qu'église locale, chaque église, même s'il n'y a pas le mot qui est utilisé, il y a vraiment une vision apostolique de toute l'église. Et le mot, c'est un mot intéressant. Et quand on voit ce mot, j'espère que ça va vous parler comme ça m'a parlé, c'est un mot qui est pris dans un vocabulaire qui a toute une histoire. Ce vocabulaire, qu'il soit grec ou latin, ça parle surtout, les apôtres, c'était ces gens de l'armée romaine qui envahissaient un pays. Et alors, ils devaient l'occuper ce pays, ils devaient le transformer. Et l'envoyé était appelé un apôtre, c'était l'envoyé. Jésus lui-même est appelé l'apôtre. Jésus, lorsque Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, peu de temps après, il est dit, il a été envoyé, non pas pour juger, mais pour sauver. Le mot envoyé, c'est apôtre. Donc, on ne peut pas aimer Jésus, si vous voulez, sans recevoir quelque chose d'apostolique, une transmission apostolique. Et on voit que ces chefs de l'époque romaine, ces consuls en particulier, les flottes, l'empereur envoyait des flottes, c'était envoyé avec des consuls, et ils avaient cette mission d'amener la culture de Rome sur les territoires conquis, pour que l'empereur se trouve aussi bien chez lui, qu'il soit à Rome ou qu'il soit ailleurs. Donc, de la même façon, le Seigneur, il a commencé par remplir une boîte qui était le tabernacle. C'est impressionnant, ça. Petite boîte, hein, tabernacle. Et puis, son but, c'est Habacuc 2, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond des mers, par les eaux qui le couvrent. Donc on voit ici que le cœur de Dieu, ce n'est pas de rester dans une boîte. Jamais ça a été de rester dans une boîte, bien sûr, aussi belle soit-elle. Et alors il habite dans son temple, alors le tabernacle, il passe au temple, il passe à ce temple vivant que nous sommes, mais le but de Dieu, c'est de remplir toute la terre, toutes les sphères de l'existence. Et c'est là qu'il y a l'onction apostolique qui est absolument nécessaire. Et on voit que Dieu, il a envoyé, donc Jésus, Jean 3, 17, Dieu n'a pas envoyé Jésus, son fils, pour condamner, mais pour sauver. Et donc c'est une mission apostolique. Et Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre, avec la mission reçue par son Père, il ne l'a pas fait tout seul, il a choisi des apôtres, il a choisi ses disciples pour partager avec lui sa mission. Et quand il monte au ciel, vous connaissez tous ce passage, Matthieu 28, une invitation de partenariat, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez faire des nations des disciples. C'est un mandat apostolique. C'est pour ça que ce mot apostolique est vraiment important. C'est un mot qui caractérise la mission que Dieu donne à son Église aujourd'hui. Et c'est un mot qui reprend son sens après peut-être des années où on ne l'a pas trop utilisé. Par contre, on n'a pas arrêté en tant qu'Église et dans l'histoire de l'Église de fonctionner de façon apostolique. Mais je crois que Dieu est en train de revisiter le vocabulaire et la compréhension de ces mots. Alors, on voit que dans l'histoire de la première Église, c'est vraiment ça. Donc Jésus, d'abord, s'entoure d'une équipe et il choisit ses 12 et il s'entoure de ces gens-là pour amener l'Évangile. Et même une fois que Jésus va mourir et ressusciter et être élevé dans le ciel, on voit dans les Actes des Apôtres la dimension apostolique de l'Église qui est en train de se mettre en route. Et là, on voit des passages fabuleux, et en particulier ce passage dans Actes 13, où on voit que Barnabas, un disciple de Jésus, va chercher Paul, va la ramener à Antioche, et les deux, ils vont être appelés à travailler en équipe. Et nous avons dans l'Église d'Antioche ce qu'on appelle un centre, une maison apostolique. Et c'est à cause, grâce à l'église d'Antioche, que nous tous ici, on existe. Et que l'église a été bâtie en Europe. Parce qu'il y avait une vision apostolique. Donc, quand un frère, c'est Alain Rindel, qui était venu ici, et il nous a, en priant avec lui, on a ressenti vraiment, il a ressenti ce mot, église d'Antioche, pour nous. On n'est pas les seuls, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un mandat apostolique sur cette église. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi ces apôtres? Aujourd'hui, c'est quoi? Dernièrement, on avait reçu un mail, je ne sais pas si les gens sont là, ils étaient là dimanche dernier. C'était des gens qui se disaient, Vous savez, il y a tout un courant dans l'Église qu'on appelle cessationniste, c'est-à-dire des gens qui disent « ça c'était bon pour l'époque autrefois, les apôtres, les prophètes, c'est fini aujourd'hui ». Et ces gens-là ont été formés en théologie, à Genève en particulier, dans cette histoire. Et puis le monsieur, il a une maladie incurable. Et là, il a cherché Dieu. Et il est allé à Bruxelles, et à Bruxelles, tout d'un coup, ministère de guérison, ministère prophétique, paf, guérison, guérison. Alors, tout d'un coup, ça a remis, on l'a reçu la semaine dernière, ça a remis toute son idée en disant, mais c'est pas fini, il y a encore aujourd'hui, Dieu guérit encore aujourd'hui, il y a encore des ministères apostoliques aujourd'hui, il y a encore des ministères prophétiques, ça a été une véritable révolution. Et je crois que ça, c'est, prenons ce que Dieu donne, et essayons de découvrir et de comprendre cet appel de Dieu en tant qu'Église d'être une Église apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors quelques mots. On voit que cette Église était. Il y avait des apôtres, des prophètes. Hein, il y avait tout cela. Mais j'aimerais baser ce que je vais dire là sur les Écritures. Et j'aimerais qu'on prenne trois textes en introduction dans le cœur de ce message, trois textes importants. Le premier, c'est Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est quand même impressionnant que... Vous voyez, il y a un ordre, quoi. Il y a un ordre. Alors nous, on aimerait bien être une habitation de Dieu en esprit, tout simplement. Mais Dieu dit, il y a un fondement. Et le fondement et la façon de bâtir, c'est pas selon la bonne inspiration seulement. C'est pas avec seulement des bonnes idées. Mais Dieu est un architecte. Souvent, en éducation, je prends souvent le modèle du temple, hein, que Dieu il donne la largeur, la longueur. Et il n'y avait pas tellement de marge d'action pour bâtir le temple. Dieu avait donné un modèle, et ce modèle, il fallait le reproduire. Et Dieu dit dans l'éducation, il y a un seul fondement, c'est Jésus-Christ, quoi. Et on veut bâtir dessus. Le début de la science, c'est la crainte de Dieu, et ça, c'est le fondement. Voyez. Donc, il y a des façons de bâtir. Et l'Église, donc Dieu dit clairement, vous avez été fondés sur les apôtres et les prophètes. Alors, il y en a qui disent, mais c'est fini, ça, c'était autrefois. Mais les apôtres et les prophètes, aujourd'hui, existent encore. Bien sûr, il n'y a peut-être pas la même autorité qu'il y avait les 12 apôtres, bien sûr que non, mais quand même, Dieu n'a pas changé sa façon de bâtir son Église. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, nous sommes rentrés dans un mouvement d'Église, de réseau apostolique, avec cette compréhension de la richesse que c'est. Donc voyez, alors on continue. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Deuxième texte, 1 Corinthiens 12. 27, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a des dons de miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles? Non, mais il y a cette idée de, premièrement, des apôtres. Ce n'est pas au sens hiérarchique, c'est plutôt au sens chronologique et au sens d'ordre qu'on a ça. Troisième texte, 1 Corinthiens 3, lorsqu'il est dit, « Quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, verset 10, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Ça c'est Paul qui parle, donc le fondement. Un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du poin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu prouvera ce qu'est la nature de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il subira la perte. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc, j'aimerais dire que tout le monde est concerné. Il y en a qui disent, mais moi, ce genre de message, apôtre, prophète, ça ne me concerne pas. Tout le monde est concerné. Pourquoi ? Parce que, en tant que fondement de l'Église, le rôle, cette onction, influe sur toute l'Église et sur tous les ministères. Très souvent, peut-être vous connaissez déjà cette image, mais quand on prend l'image d'une, elle est bien connue cette image, c'est peut-être une répétition, mais quand on prend l'image d'une main, il y a 5 doigts, c'est quand même étonnant que Dieu parle de 5 ministères, et que ce fameux pouce, eh bien, il touche tous les autres, c'est le seul doigt qui touche tous les autres. Et beaucoup parlent de cette onction apostolique qui est prête à faire le lien, à donner la synergie avec les autres ministères évangéliques, pasteurs, docteurs, prophètes. Vous voyez, il y a ce lien qui est là. Et le pouce, hein, pour planter, je ne sais pas. Enfin bon, ça c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a, on est tous concernés par cette histoire parce que Dieu, l'Église qu'il veut bâtir, qu'il est en train de bâtir, c'est vraiment une Église fondée de cette manière-là. On a souvent eu le modèle d'autres systèmes d'église avec un modèle pastoral, vous voyez, qui conduit l'église, mais je crois que c'est pas la meilleure façon que Dieu veut faire. Il faut des pasteurs, mais le fondement est apostolique et prophétique. Alors, les ministères, ça veut dire quoi ? Alors, là, en tant que Josué, on veut vraiment être très clair là-dessus. Quand on parle de ministère, on parle de service. Les ministères, c'est des services. C'est des serviteurs. Ils ne sont pas au-dessus des autres. Ils sont au-dessus de personne. Ils sont là pour servir. Donc c'est une dimension d'humilité qui est vraiment importante, qu'on soit apôtre, prophète, tous les autres, etc. L'humilité, le service. Et donc ce ministère de service, comme Jésus, le statut des apôtres, Paul en parle et le rappelle, il n'est pas très drôle. J'aimerais quand même le rappeler, 1 Corinthiens 4, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, la soif, le dénuement, au coup, une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler avec nos propres mains. Insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Bienvenue aux candidats pour le ministère apostolique. C'est vraiment, ça donne pas tellement envie. Et pourtant, c'est un choix de Dieu. Et cette onction apostolique n'est pas seulement sur des individus, mais elle est sur des œuvres, elle est sur des églises, elle est sur des équipes. Et dans le travail de ce réseau dans lequel nous sommes, même si on reconnaît des ministères apostoliques, l'exercice de ce ministère se fait toujours dans le cadre d'une équipe. Et d'ailleurs, c'est important, l'exercice du ministère, prophète aussi, c'est toujours dans le cadre d'une équipe. Rappelez-vous le petit dérapage qu'on a vécu il y a 2 semaines avec ce frère, mais j'ai pu l'appeler, hein, ça s'est très bien passé. Il a reçu la correction, il s'est excusé, tout ça. Mais j'ai dit, il faut faire attention entre le ministère et le don. Et les ministères de prophètes n'ont jamais à travailler tout seuls. Ils sont soumis aux prophètes. Et c'est pour ça que le fameux livre qui parlait de la fin des temps, là, rappelez-vous, le 20 septembre, là, quelqu'un de l'église m'avait dit, mais c'est quoi ce livre ? Regardez, ça a l'air d'être juste, il y a des signes astro, tout ça. J'ai regardé le livre, j'ai dit, c'est quelqu'un qui se dit tout seul, rien que ça. C'est plus le fonctionnement du Nouveau Testament. Les prophètes travaillent toujours avec d'autres, en soumission, intersoumission avec les autres. C'est pareil au niveau apostolique, c'est des équipes. Et c'est ça notre sécurité. Et en tant qu'église locale, on travaille avec une équipe apostolique, celle de Réseau Héritage, qui nous couvre, ça veut dire qui nous sert, et dont les vis-à-vis, Alain, Rindel, Pierre Kranga, sont des gens pour nous servir, nous accompagner, nous bénir. Mais ils ne le font pas en leur nom. Ils le font au nom d'une équipe. Et c'est cette partie d'équipe qui part à Madagascar aussi, au niveau de l'apostolat par rapport aux écoles chrétiennes. Donc le ministère apostolique et prophétique, c'est l'actualité. Dieu est en train de restaurer. Parce que Dieu, on parlait de l'anniversaire de la réforme, il y a une réforme dans la vision de l'Église, dans la façon de travailler, qui est extraordinaire. Je cite Peter Wagner, un spécialiste vraiment de l'Église aujourd'hui et qui a vraiment été sensible au mouvement du Saint-Esprit, il dit ceci, « La nouvelle réforme apostolique représente le changement le plus radical dans la façon de vivre l'Église depuis la réforme protestante. » Ce n'est pas un changement doctrinal. Nous adhérons aux principales affirmations de la réforme, l'autorité des Écritures, la justification par la foi, le sacerdoce de tous les croyants. Mais la qualité de la vie de l'Église, la gouvernance de l'Église, l'adoration, la théologie de la prière, les buts missionnaires, la vision optimiste du futur et d'autres points constituent un réel changement par rapport au protestantisme traditionnel. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans on redécouvre, si vous voulez, toutes ces onctions que Jésus a données, et on est déterminé à les vivre. Je rappelle la démarche du réseau Nouvelle Connexion, c'est multiplier les réseaux apostoliques, les équipes au sein du RNC, et connecter les équipes apostoliques, les réseaux, au niveau national et francophone. Et le but, c'est quoi? C'est pas ça. Le but, c'est pas d'être bien entre nous. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une plus grande manifestation du royaume de Dieu dans notre nation. Et si vous voulez, si on a la vision simplement d'être en bonne santé, d'être bien et d'être heureux, à ce moment-là, une église locale gouvernée de façon pastorale ou autre, ça suffit. Mais si on a à cœur le royaume de Dieu, beaucoup plus que ça, on a besoin non seulement de ces ministères pastoraux qui sont absolument indispensables, mais on a aussi besoin de ces ministères apostoliques qui vont voir plus loin. Et la richesse que nous avons ici, et parfois c'est vécu un peu dans la tension, parce que c'est toutes ces équipes qui partent, je pense à l'équipe Sozo, je pense aux équipes éducation chrétienne, je pense à toutes ces équipes régulièrement qui partent pour impacter les villes, les nations. Et là, c'est un privilège. Et le merveilleux privilège, c'est cet accompagnement de la prière de vous tous. Donc, nous sommes, notre ADN, c'est d'être une église apostolique. Le symbole du Nicée, un des premiers textes dans l'histoire de l'Église qui était confessé régulièrement. Écoutez bien, ça va vous dire quelque chose. Hein. Écoutez ça. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique, apostolique. Alors, catholique, ça voulait dire universel, mais apostolique. Vous voyez ? Apostolique. Ce texte, il est valable pour aujourd'hui aussi. On croit en une Église, en l'Église, sainte. Sainte parce qu'on a été fait saint. Hein. Catholique parce que c'est universel, elle est dans le monde entier. Et apostolique parce qu'elle a un mandat d'impacter les nations et d'amener ce royaume, cette présence de Dieu. Donc ça, c'est le symbole de Nicée, vous voyez, ça date d'un moment. Donc, on voit que la définition de RNC, de l'apostolat, de ce réseau dans lequel on est, c'est, ou les signes distinctifs dans la culture du réseau, et j'aimerais donner quelques indications de qu'est-ce que c'est ce ministère apostolique, hein, d'une personne, mais en particulier d'une équipe ou d'un réseau. L'apôtre, on le voit dans les Écritures, il a reçu une révélation de Dieu particulière. Ça, c'est Paul. Paul qui a reçu cette révélation. Éphésiens 3. À cause de ça, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En le lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils de l'homme. Voilà. Et il dit que j'ai eu une révélation, c'est Paul qui dit, et ensuite il dit, c'est pour ça que je suis devenu votre serviteur. Donc la révélation, la dimension apostolique, c'est une dimension de révélation. Et c'est pour ça qu'on voit cette vision du royaume de Dieu, cette vision de ce qui est dans le ciel, cette vision de cette culture de l'honneur dont on parle. Et de tout ça, il y a quelque chose dans nos cœurs qui dit on veut le voir venir s'incarner au milieu de nous. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la dimension apostolique. C'est-à-dire, je vois quelque chose dans le ciel, j'ai discerné quelque chose. Et ma prière, c'est que ton règne vienne. Dès qu'il y a cette prière, il y a une dimension apostolique. D'ailleurs, la prière de Jésus est une prière apostolique. Que ton règne vienne, vous voyez. Et ça, c'est pour ça qu'on l'a chanté, mais ce n'est pas seulement un chant, mais c'est toute notre ADN, notre cœur. Donc le premier point d'une vision apostolique d'Église, c'est qu'on travaille avec la révélation. Avec la révélation. Et puis, le deuxième point, c'est que l'apôtre, le ministère apostolique, c'est pour construire. C'est un sage architecte. Et pour ça, il y a une capacité d'édifier, de mettre en œuvre des stratégies et une vision. Et on voit vraiment ça qui... Alors, c'est appelé à plus de maturité, c'est appelé à grandir, mais l'onction, elle est là. Et nous sommes appelés à mettre en œuvre beaucoup de choses. Et au niveau de l'église locale, on est enceint de beaucoup de choses. C'est pour ça que ces locaux au niveau de Caleb sont déterminants. C'est l'outre, si vous voulez, c'est l'outre concrète. Il y a l'outre des hommes et des femmes, mais il y a l'outre bâtiment qui est tellement importante pour pouvoir rentrer dans cette vision du service de la ville et de la bénédiction de la ville. Donc l'apôtre, un constructeur. Vous savez, dans un moment, il y a un prophète, c'est Zacharie, il a une vision de ces cornes qui viennent détruire les nations. Et puis il est là, il dit, mais Seigneur, au secours! Tu vois un peu ces cornes, c'est-à-dire ces princes des ténèbres qui viennent pour détruire les nations, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu lui dit, il lui donne une vision, et il voit des forgerons, et le terme exact c'est des bâtisseurs. Il voit des bâtisseurs, il dit, mais c'est qui ces bâtisseurs? Et Dieu lui dit, je les ai envoyés, ils vont détruire ces œuvres du diable. Et donc l'onction apostolique, elle est là pour détruire ces œuvres du diable, pour bâtir, mais pour détruire également. Et 1 Corinthiens 3:10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la matière dont il bâtit dessus. L'Esprit du Seigneur nous a été donné pour mettre des nouveaux fondements. Hein? La Bible dit, si les fondements sont détruits, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Et donc l'Esprit du Seigneur nous a été donné pour bâtir sur les fondements antiques, sur ces fondements apostoliques et prophétiques en particulier. Donc l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas seulement une église charismatique qui vit des dons de l'Esprit, voyez, mais une église apostolique est une église qui vit des dons de l'Esprit, mais qui veut bâtir sur ce fondement et poser des nouveaux fondements. Et nous sommes en train, je pense à l'équipe Sozo, qui pose les fondements de la guérison, hein. Ils ne sont pas les seuls, il y a d'autres mouvements, mais quand même, il y a des fondements qui sont posés. Je pense à tout ce qui est éducation. On pose un autre fondement sur le pays, il y a un mandat apostolique vraiment qui est là et qu'on veut accompagner. On a besoin de fondements. Et quand nous sommes dans un pays qui a perdu ses fondements, et Dieu attend que le ministère apostolique, collectif aussi, se libère pour poser des nouveaux fondement. Donc une vision apostolique, l'architecture, ça demande une vision globale. Le ministère apostolique, l'onction apostolique d'une église, elle ne regarde pas que son nombril, elle regarde loin. Elle regarde loin. Elle porte des fardeaux lointains aussi. C'est pour ça que je dis encore, ces drapeaux que nous avons, c'est pas pour avoir des belles couleurs dans l'église. Mais c'est parce que on porte les nations et on sent ce cri de Jésus qui dit au Père, donne-moi les nations pour héritage. Et ça, c'est ce mandat apostolique. Alors ensuite, il y a l'autre point, le troisième point, c'est avoir conscience de la sphère d'autorité qu'on a. Les apôtres dans le Nouveau Testament, ce n'est pas parce qu'il est apôtre qu'il est apôtre partout. Hein? Les apôtres ont un champ délimité. Hein? Il est apôtre sur telle église, pas sur l'autre, par exemple. C'est un ministère, c'est pas la personne, c'est le ministère apostolique. Et donc, l'apôtre Paul, il disait, il comprenait la sphère d'autorité qu'il avait. Regardez, 2 Corinthiens 10, verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir ainsi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites. Vous vous rendez compte? Paul qui dit, je ne dépasse pas les limites que Dieu m'a données. Alors ça c'est impressionnant. Et en tant qu'église locale, essayons de concevoir, Seigneur, quelles sont les limites que tu nous as données? Quel est le mandat que tu nous as donné? Et je me rappelle, il y a longtemps déjà, on croit qu'on n'est pas les seuls, encore une fois, mais cette zone géographique au niveau de Guebwiller et environ, il y a un certain métrone, il y a une certaine mesure d'autorité que Dieu nous donne. Mais dans d'autres domaines, il y a une mesure nationale que Dieu nous donne. Voyez, donc, selon les domaines, Dieu nous apprend à dire, attention, voilà, ça c'est ton champ d'action. Et là, tu as une autorité apostolique là, mais pas là. Voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'être conscients en tant qu'Église de la sphère que nous avons. Et si nous sommes fidèles dans les choses que Dieu nous donne, eh bien Dieu nous en confiera de plus grandes. C'est pour ça que ce que nous vivons au niveau des bâtiments en ce moment est vraiment important. Soyons fidèles dans ce que Dieu nous donne pour aller plus loin. L'autre volet du ministère apostolique, c'est qu'il a conscience donc de cette sphère. Il n'existe pas d'apôtre universel, mais il y a aussi maintenant le côté, si vous voulez, de pionnier. C'est-à-dire, il y a toujours la quête de nouveaux territoires. Alors parfois, ça embête un peu certains qui disent, mais écoute, regarde déjà là le petit champ qu'on a, il y a tellement de choses à faire. On ne va pas quand même commencer à toucher d'autres domaines, voyez. Et c'est pour ça qu'on est une équipe et qu'on est les uns les autres à se compléter et qu'on a besoin de gens qui ont une vision locale et purement locale et qui disent, mais on veut, et tout en comprenant la plus large vision. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de tout le monde. Donc cette vision de pionnier, d'aller vers des nouveaux territoires géographiques, sociaux, culturels, spirituels, en posant le fondement de l'évangile, c'est ça la dimension apostolique. Je sais qu'avec Denis, il a cœur le domaine de l'économie en particulier et tout ça. On porte dans nos cœurs un rêve, mais c'est un rêve de Dieu. Et ce rêve de Dieu a besoin de l'onction apostolique pour être libéré. Alors, une église, c'est aussi un apôtre, c'est aussi un catalyseur, ministère apostolique, c'est un ministère catalyseur, c'est-à-dire centré sur la vision, mais pas centré sur son propre ministère. Et ça c'est capital. On n'est pas centré sur son ministère personnel. Le ministère apostolique ou prophétique, il est centré sur l'œuvre de Dieu, sur la vision de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas des histoires de noms. Parfois, on a eu peur des noms. On a dit, voilà, si on appelle les gens apôtres, tout ça, ils vont avoir les chevilles qui enflent, quoi. Mais donc, on comprend le danger qui est là. Mais comprenons à mettre les noms sur ce que Dieu fait et sur les dons que Dieu a donnés aux personnes. Voilà, donc l'apôtre est relié toujours avec une église locale avec laquelle il a une vision privilégiée. Et l'apôtre, il a cette vision du monde. Et c'est pour ça que si nous devenons, et nous sommes en train de devenir, un centre, une maison apostolique, une maison qui envoie, une maison qui accompagne, il y a besoin d'être, si vous voulez, enraciné dans la compréhension des différents dieux que Dieu nous a donnés les uns aux autres et de les exercer ensemble. Et j'aimerais dire, et je termine par là, cette première ébauche du ministère apostolique. Vous avez vu dans notre énoncé de mission d'église, on a dit nous sommes une famille. Et je rappelle ce que j'ai dit il y a quelques temps, je crois que c'était au printemps dernier. C'est ce que Paul Manwaring de Bethel le dit souvent. Mais l'onction apostolique, c'est quoi? C'est aussi une onction de famille. C'est-à-dire que c'est un travail, non pas avec des ouvriers qui ne sont pas en lien les uns avec les autres, mais c'est un travail, une mission qui s'accomplit dans le cadre d'une famille. C'est-à-dire, il y a des pères, des mères, des fils, des filles. Nous sommes tous pères et mères, appelés à être pères et mères, et fils et filles. Tous, ici. Il n'y a pas d'exclusivité. Mais nous sommes le gouvernement de Dieu, cette famille de la Trinité, la première famille, rappelez-vous, elle a dit, eh bien, on va créer le monde, on va créer l'humanité. Il y a de l'entrepreneuriat dans une dimension de famille. Une famille spirituelle, nous sommes dans un réseau qui s'appelle une famille spirituelle. Je rappelle la phrase qui m'a beaucoup touché de ce Paul Manwaring, écoutez ça. Le gouvernement des cieux, c'est une famille. Le gouvernement des cieux est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois en un. Leur loyauté les uns envers les autres est si parfaite. L'honneur qu'ils manifestent les uns envers les autres est si parfait. Leur compréhension de la vocation de chacun est si parfaite. L'identité de chacun est si parfaite que vous pouvez voir les trois tout en pensant que vous n'en voyez qu'un. Ils sont un en trois, trois en un. Ils sont la représentation parfaite de ce que signifie la relation. Et l'onction apostolique, c'est-à-dire d'entreprendre la création du monde, des cieux, de la terre, de l'homme, elle est venue dans le cadre d'une famille qui s'aimait et qui s'honorait. Et c'est pourquoi nous avons mis comme thématique pour l'année qui vient, et on va rester longtemps dessus, cette thématique de l'honneur, parce qu'elle est l'ingrédient de l'onction apostolique que Dieu est en train de relever pour bâtir et incarner le royaume dans notre pays. Nous ne sommes pas là comme des conquérants et des nouveaux croisés qui allons dire « Allons-y, on va installer le royaume de Dieu ». Nous sommes un peuple qui veut honorer Dieu en premier, s'honorer les uns les autres, honorer les plus petits parmi nous. Et dans ce climat de famille, il y a une autorité que Dieu donne et cette autorité, ça s'appelle une autorité apostolique. Il n'y a pas d'autorité apostolique en dehors de relations de famille, en dehors d'une église qui vit une dimension de famille. Lorsque l'apôtre Paul, par exemple, enseignait, il disait, mais c'est pas seulement de l'enseignement que je vous ai donné, c'est ma propre vie. Et il parle de lui comme d'un père, mais d'un père qui se donne pas d'un père qui contrôle, manipule et tout ça, voyez. Et je crois qu'il y a l'esprit du père et de la mère, si vous voulez, l'esprit de Dieu, de cette église, il doit émaner, il émane déjà, mais un parfum, si vous voulez, un parfum qui fasse envie, mais qui fasse pas seulement envie d'être bien parce qu'on est bien en famille, mais qui s'est fait cette famille avec cette dimension apostolique, on a été mis les uns les autres ici parce qu'il y a une mission que Dieu nous a donnée. Et cette mission, c'est l'établissement et l'incarnation de son royaume. Nous n'avons pas été mis pour nous faire du bien seulement les uns les autres, ça commence par là, mais il y a une mission qui est sérieuse et un mandat sérieux que Dieu nous a donné. Et donc voilà, donc dans les cieux, cette communauté parfaite, elle a engendré, faisons l'homme à notre image, etc. Extraordinaire. Le mouvement apostolique, c'est faire descendre, cette prière d'Éphésiens 1. Si vous voulez une prière apostolique, c'est la prière d'Éphésiens 1. C'est la prière qui dit, Seigneur, eh bien tu me montres ton plan de réunir tout ce qui est dans le ciel avec ce qui est sur la terre. Est-ce que vous pouvez imaginer l'ambiance de crèche où le ciel est là, où la présence de Dieu est là? Est-ce que vous pouvez imaginer des centres sociaux où la présence de Dieu est là? Est-ce que vous pouvez imaginer des centres d'accueil de réfugiés où la présence de Dieu est là? Ça, c'est ce que nous voulons. Ça, c'est le rêve de Dieu. Ça, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Donc, le mouvement apostolique, il va révéler la famille. Il va révéler des frères et des sœurs. Il va révéler des pères et des mères. Soyons attentif d'être vraiment guéri par rapport à tout ce qui nous a fait mal au niveau paternité et maternité dans nos vies. Parce que sinon, nous ne pouvons pas rentrer dans l'apostolique. Si une figure d'autorité nous a trompés, nous a déçus, et qu'on est resté avec ça, on ne peut pas. Et même l'apostolique va nous énerver, on ne va pas le supporter. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que probablement, Dieu veut guérir quelque chose qui a fait mal. Et vous savez, personne n'est à l'abri ici de faire du mal à quelqu'un. On a tous fait du mal à quelqu'un, sans le vouloir, sans le savoir. D'où l'importance de ces relations de famille pour libérer l'Esprit de Dieu et lever des fils et des filles. Et je termine, quand Dieu a vu le monde qu'il a créé avec la souffrance, avec le péché, eh ben, il a envoyé Apostolo, son fils. Dieu, le ministère apostolique, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire Dieu choisit des fils et des filles que vous êtes, que nous sommes appelés à être, et il les envoie. Et ça, le Seigneur veut continuer à le faire. Il t'a choisi dans cette église. Il t'a mis ensemble avec des frères et sœurs, parce qu'ensemble, il veut nous envoyer. Et il veut nous envoyer pour remettre des fondements, rebâtir une nation qui est bien en ruine. Ça, c'est le mouvement apostolique. Dieu envoie toujours des fils et des filles. Chaque fois que Dieu veut réparer, restaurer, il envoie toujours une famille. Et c'est pour ça que nous appelons, nous voulons être. Nous ne sommes pas encore complètement, bien sûr, mais nous voulons être cette famille. Et que si nous voulons être une famille en tant qu'Église, travaillons à la notion de famille dans nos foyers. Et j'appelle les pères ici, les pères de famille. Les pères de famille, si nous voulons rentrer dans une véritable dimension apostolique, il faut que les pères que nous sommes et puissent vraiment exercer leur rôle de père dans nos foyers. Et là, je dis en présence de ma femme, c'est toujours pas évident, parce qu'ils nous connaissent bien, ils ne vont pas raconter des bobards. Hein. Mais on veut vivre des familles saines et se lever dans la dimension apostolique tous ensemble et en bénéficier grâce à ce réseau dans lequel nous sommes. Et Antioche a été le départ d'un lancement d'équipes apostoliques qui ont touché l'Europe et qui ont embrasé le monde. Ça, c'est notre cœur. C'est notre mission. Voilà, simplement, Seigneur, merci pour Jésus, le grand apôtre, que tu as envoyé. Et tu nous envoies aussi, Seigneur, non seulement individuellement, mais tu nous envoies en tant qu'Église, pour rebâtir des fondements là où il n'y en a plus. Et Seigneur, tu as mis dans nos cœurs tellement de semences, tellement de visions. Et Seigneur, apprends-nous à être cette famille dans cette dimension apostolique, dans cette culture du ciel et de l'honneur, afin de réparer les brèches dans ce pays, de rendre ce pays habitable dans les domaines économiques, dans les domaines éducatifs, dans les domaines sociaux, des loisirs, dans le domaine de la petite enfance, dans tous ces domaines, Seigneur. Seigneur, oint, tu nous as oint. Merci pour les fils et les filles qui sont dans cette salle, qui sont là. Merci pour les fils et les filles que nous sommes tous ensemble. Et merci pour l'onction apostolique et prophétique que nous recevons pour bâtir, rebâtir, restaurer. Merci Jésus, sois béni. Merci pour le ciel que tu es venu réconcilier avec la terre. Tu es venu pour ça, Seigneur. Merci. Et j'aimerais dire, célébrer la belle famille que nous formons. Comment est-ce qu'on parle de la famille que nous formons? Comment tu parles de ta famille quand tu es à l'extérieur? Comment tu parles de ta mère, de ton père, de tes enfants? Comment tu parles de la famille dans laquelle Dieu t'a mis? Que Dieu nous aide à développer cette culture de l'honneur et que quand Dieu te regarde et me regarde, il est content. Tu vas me dire, mais pourtant il y a du travail à faire. Hein. Mais il est content, il t'encourage. Que nous puissions entrer dans la pleine vocation que Dieu a pour nous. Et que ce laser qui sortait de cette discothèque pendant des années pour éclairer toute la région, et bien que cette lumière puisse impacter notre région et bénir notre entourage. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Merci pour votre soutien, pour ce voyage. Je pars gonflé, je pars en sécurité, je pars dans la foi. Et je pars aussi en dépendant de cette grâce de Dieu. J'aurai des tas de choses sûrement à vous raconter. Vous êtes ceux qui êtes peut-être pour cette fois à l'arrière, mais franchement, je crois que vous allez récolter avec moi tellement, tellement. Alors merci d'ensemencer Madagascar, de tout votre amour, de toutes vos prières. Un dernier sujet de prière pour Madagascar. Je prie qu'il y ait un réseau qui se mette en place. Chaque église travaille pour son coin. Chaque réseau travaille pour lui. Au niveau des écoles, chacun fait son truc. Mon souhait, c'est qu'il y ait un réseau qui se mette en place au niveau national et qui se crée un cœur pour servir les uns les autres dans cette vision. Ça, c'est mon rêve et j'y vais avec ça là-bas. Voilà.